Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. C'est l'automne sur la France. C'est l'automne sur Paris. Mais tant pis. Je vous propose un petit parapluie, des bottes, un petit ciré, ce que vous voulez, et je vous emmène à Paris. Je vous emmène plus exactement dans le village de Montmartre. Et oui, Montmartre, c'est un village avec ses peintres. Aujourd'hui, il y en a encore, mais Montmartre, au XXe siècle, début du XXe siècle, c'était ces peintres, ces artistes, ces ruelles, ces cris, toute une ambiance. Pour nous parler de ce Montmartre-là, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un auteur qui nous décrit Montmartre au travers de peintres illustres, connus et reconnus, au travers aussi de ces artistes passionnés et passionnants qui ont une vie dirais-je dissolu, mais au travers de leur talent, de leur art, ils nous font revivre ce Montmartre, je dirais romanesque, romantique et tout attachant également. Alors, pour nous parler de ce bon Montmartre, j'accueille monsieur Yonick Flo. Bonjour Yonick Flo.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour votre ouvrage Lautrec Valandon aux éditions de la Biquine. Alors déjà, on va un petit peu parler de vous. Qui est Yonick Flo? Je sais que vous avez fait plein de choses, vous avez été journaliste, vous avez été à l'AFP. Bref, allez, on vous écoute. Qui êtes-vous?
Non, mais par rapport à... Ce qui est important, c'est peut-être par rapport à... Je dirais pas à mon enfance, mais par rapport au livre, ce que je suis.
Oui.
J'ai eu la chance, alors que je suis un petit breton d'origine, d'arriver enfant à Paris.
Oui.
Et le hasard géographique, je dirais, m'a amené à Montmartre, avec mon père, boulevard Rochechouart, dans un immeuble où, je sais pas, je devais avoir 8-9 ans, il y avait une vieille femme qui nous disait qu'elle avait connu Toulouse-Lautrec. Donc, bien sûr, moi, ça ne me disait rien.
Bien sûr.
Mais comme il y avait en face de chez nous le cirque Medrano, mon papa, qui était à la fois féru de culture, de peinture, d'histoire, m'avait raconté qu'avant, ça s'appelait le cirque Fernando, que Toulouse-Lautrec, justement, c'était un peintre qui avait beaucoup dessiné les écuyères, que boulevard Rochechouart, d'ailleurs, il y avait aussi Suzanne Valadon, qui avait été le modèle et la maîtresse et aussi une grande femme peintre de Lautrec, qui avait également habité là. Donc j'ai baigné un peu enfant. Il y avait le Chat Noir qui existait encore, le cabaret. Il n'était pas encore en... il existait, disons, physiquement, géographiquement, même s'il était parti. Mais il y avait toujours l'Aventure. Il y avait l'Élysée-Montmartre qui était à côté. Il y avait l'Auberge du Clou, avenue Trudel. Donc, que ce soit le Haut-Montmartre ou le Bas-Montmartre, j'ai baigné, disons, toute mon enfance et après mon adolescence, et bien après d'ailleurs, dans ce Montmartre, aussi bien le haut Montmartre que le bas Montmartre. Et à chaque fois, je me suis retrouvé, disons, sur les pas de Toulouse-Lautrec, un petit peu après de Suzanne Valadon. Pour une anecdote tout à fait, je dirais, personnelle, j'ai épousé une franco-irlandaise dont le nom de jeune fille est Valadon. Ça ne s'invente pas.
Ça ne s'invente pas, non.
Donc, c'est vrai que j'ai baigné dans cette atmosphère à la fois romanesque, à la fois... C'était encore un peu champêtre dans les années 50. C'était pas le Lautrec village, le Montmartre village qu'a connu Toulouse-Lautrec. Faut rappeler d'ailleurs que Montmartre, c'était très récemment parisien. C'est sous le Second Empire que, disons, il n'y avait pas d'ailleurs que Montmartre. Il y a eu Auteuil, Belleville. Tous les petits villages qui étaient autour de Paris ont été rattachés. Mais Montmartre, c'était la campagne. C'était vraiment... une atmosphère rustique, une atmosphère campagnarde. Il y avait même une vacherie à l'époque, c'est-à-dire une petite ferme. Et c'est vrai que ce côté un petit peu d'un Paris d'autrefois m'a beaucoup séduit. Et puis, très très vite aussi, quand j'ai découvert les deux personnages, Lautrec est plus connu que Suzanne Valadon, ça en dit d'ailleurs beaucoup sur l'époque, qui était très, très sexiste, très féministe, anti-femme, disons, du point de vue aussi bien sociétal qu'artistique. J'étais fasciné, effectivement, vous avez prononcé le mot romanesque, mais là, c'est la fiction, c'est la vie de ces deux êtres, c'est assez prodigieux, je veux dire. C'est en plus l'union des contraires.
Oui, complètement.
Une fille... fille de blanchisseuse, bâtarde, qui aurait dû être, disons, comme sa mère blanchisseuse, comme elle était finalement pas trop moche, mmh. elle aurait pu aussi devenir prostituée ou petite actrice entretenue.
C'était une jolie fille.
Et à force oui. de courage, de mmh. résolution, mmh. de détermination, elle est devenue modèle,
oui.
elle est devenue peintre, et disons, elle a cassé le déterminisme social pour vraiment s'affirmer, et comme femme pauvre.
Elle a cassé les codes. Elle a cassé
Exactement.
Les codes.
Exactement. Elle est sortie du code où la femme devait être ou une sainte, une mère de famille, mm. ou une putain.
Tout à fait.
Et en face d'elle...
Il y a Henri de Toulouse-Lautrec. Voilà.
Elle va rencontrer Toulouse-Lautrec qui, finalement, lui aussi, a rompu
avec les codes.
Sa famille, avec mm. son milieu.
Tout à fait. Il aurait pu épouser une cousine éloignée, faire des enfants...
avoir une petite vie.
Avoir une petite vie tranquille.
Exactement. Ouais. Or, il y a eu à la fois, certainement, cette volonté de création, de
oui.
peindre,
oui.
De regarder. Il y a une devise d'ailleurs de Suzanne Valadon que je trouve magnifique, qui d'ailleurs pourrait s'appliquer à Toulouse-Lautrec. C'était donner, aimer, peindre.
Oui.
Donc c'est vrai que Lautrec, on le sait ça, même si souvent sa légende à Montmartre avec les filles, avec l'alcool, avec mmh. les crises nerveuses, ça a un peu occulté, disons, la grande mmh. valeur artistique de mmh. l'homme, et surtout la qualité humaine de l'homme, mmh. hein, mais ça on peut en reparler.
Oui, mais c'était,
moi, ce qui m'avait absolument passionné dans Lautrec, c'est mmh. que, comme vous venez de le dire, il aurait pu être un espèce de hobereau,
tout à fait.
Vivant de ses rentes, mmh. troussant à l'occasion une petite fermière, ayant une vie à la fois très agréable, mais oui. parfaitement inutile et stupide. Mmh. Or, il a été au tournant du siècle,
oui.
Dans une révolution picturale. Alors peut-être que tout ça est lié à l'enfance.
Oui, parce que ce sont ce qu'on les appelle des post-impressionnistes.
Oui, parce qu'il y a eu juste un petit peu avant, bon ça c'est archi connu,
oui.
C'est effectivement la grande révolution picturale de l'impressionnisme, avec
oui.
les plus grands noms, que ce soit Renoir, que ce soit Manet, qui viennent juste un tout petit peu avant du point de vue chronologique, et donc ils ont... On dit post-impressionnisme, un espèce d'impressionnisme plus réaliste, disons,
oui.
plus fort, plus dru, souvent.
Mm.
Enfin, surtout Lautrec et Valadon, mais
Valadon,
il y en a eu d'autres.
Oui.
Et juste
oui.
après, il y a eu, bien sûr, le fauvisme, sans oublier après la révolution de Picasso.
Tout à fait.
Petite parenthèse, d'ailleurs, Picasso est venu à Paris.
Mm.
Une des raisons de sa venue à Paris, c'était parce qu'il admirait beaucoup Toulouse-Lautrec quand
oui.
il est arrivé de Barcelone.
Mm-hmm. Hein.
Et ses premières toiles... qui sont d'ailleurs comme par hasard souvent des prostituées
oui.
ou des gens du peuple très simples,
oui.
Sont très inspirés de Toulouse-Lautrec.
Mmh.
Donc moi, c'est vrai que quand je me suis retrouvé avec ces deux personnages qui sont l'union des contraires...
Complètement. L'union des contraires socialement, mais également physiquement. Moi, j'ai eu l'impression, au-delà de leur talent, de la belle et la bête. Parce qu'elle, elle est jolie, c'est une jolie femme, elle plaît aux hommes. Et lui, il est infirme, il est pas très beau, Henri de Toulouse-Lautrec.
Lautrec, on le sait, mais on ne sait pas trop. Quand il a eu 13-14 ans, il a eu ça pouvait penser à un accident banal,
oui.
De se casser le fémur, je ne sais plus, deux fois.
Oui.
Sauf que, à partir de 13, et puis deux fois de suite, 13, 14 ans, je crois, 13 ans et demi. Sauf que ces jambes n'ont jamais repoussé.
Mm.
Alors, on est à peu près sûr maintenant. À l'époque, on s'en doutait, mais on n'en avait point de certitude. C'est-à-dire que son père et sa mère, qui sont d'ailleurs des personnages de romans, eux aussi,
ils
étaient cousins.
Mm-hmm.
Donc ça a dû jouer, on est à peu près sûr maintenant, les médecins.
Maladie génétique, oui.
C'est la consanguinité. Donc c'est sûr que ça a posé problème. Donc ces jambes ont continué à cesser de grandir,
mm-hmm.
alors que tout son buste, et même pour l'anecdote, plus que son buste, on le sait,
oui.
on l'appelait la cafetière ou le porte-manteau, dans les bordels, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, il était vraiment, dans certains domaines, c'était le surmal, si vous voulez, voyez. Et c'est vrai qu'avec sans doute la douleur, la maladie, le fait d'être un peu rejeté, comme enfant de 13, 14 ans, 15 ans, quand on est adolescent, il était un petit peu infirme, avec une canne, mais il ne faut pas non plus exagérer. Hein,
oui.
un petit peu
oui.
forcé la note sur lui. Hein.
C'est vrai. C'est
il n'était pas très beau, encore que tous les témoignages disent, y compris Yvette Guilbert, des femmes, ou Jeanne Avril, des femmes qu'il a bien aimées, qu'il a connues, pas aimées forcément charnellement.
Oui,
mais
qu'il a apprécié, qu'il admirait, oui.
Oui, qu'il admirait, qu'il a même sans doute aimé platoniquement.
Oui.
Il disait qu'il avait des yeux superbes. Mais c'est vrai que ça... sa bouche est un peu épaissie, son nez. Bon, c'était pas un monstre. Hein.
Non.
Ça, c'est l'erreur. C'était pas. Et de même, c'était pas non plus un nain ou un gnome.
Mmh.
Il faisait, je crois, 1m52, 53. Mmh. Et Suzanne Valadon, finalement, faisait guère plus.
Elle n'était pas très grande non plus. Non, non.
Elle n'était pas très grande, mais c'est vrai qu'à l'époque, aussi bien, on était un peu moins grand.
Hein. Oui, tout à fait.
Mais elle était effectivement assez jolie. Elle avait un très beau corps. Et puis surtout, je pense, et ça les a réunis, c'est qu'ils avaient une énergie.
Mmh.
On dit que c'est l'union des contraires, mais ça a quand même flambé, disons, superbement. Mmh.
Ça a été une grande passion. Ils se sont connus vers l'âge de 20 ans. Mais lui est mort très jeune. Hein. Il est mort dans sa 37e année.
Il est né en
1865. Il est mort en 1900. Voilà.
Elle
est morte à 73 ans.
1938.
73 ans. Oui.
Moi, j'ai connu une journaliste qui l'a connue. Vous voyez, je veux dire, je suis un vétéran du journalisme. Mais même moi qui ne l'ai pas connue, pour l'anecdote d'ailleurs, tant pis, je fais sonner mon grand âge. Moi, je suis né l'année de la mort de Suzanne Valadon, en 1938.
Eh bien, écoutez.
Mais j'ai connu des gens qui l'ont connue. Mmh. Et elle était, paraît-il, elle était très très belle. Et elle plaisait beaucoup aux hommes.
Ouais.
D'ailleurs, il faut être franc, même si elle a un immense talent et que j'admire, mais profondément, son trajet. Moi, mon livre, c'est quand même pratiquement, il y a peut-être une approche biographique et littéraire, mais c'est avant tout un exercice d'admiration.
Tout à fait, je suis bien d'accord.
Aussi bien pour les deux, si
pour
vous
les deux.
Voyez.
Mais ce sont deux...
Elle plaisait aux hommes,
oui.
Et lui, Lautrec, il adorait les femmes.
Oui, il adorait
les femmes.
Mais ce sont deux personnages...
Bien sûr que, en plus, comme il était physiquement au-dessus de la moyenne, c'est évident. On a même parlé de priapisme. Je suis pas sûr. Il avait une espèce de libido très forte.
Oui.
Et il semble-t-il, elle aussi. Donc, sans tomber dans, on n'est pas dans, à faire du,
mais
du facile. Mais il est évident que ça a dû complètement flamber entre eux.
Ah, mais ça, visiblement, ça a été.
Sexuellement, ils se sont beaucoup plus.
Ça a été une passion. Ça a été aussi, je t'aime moi non plus, hein, parce que leur relation, c'était, je te vois plus, je t'aime plus. Et alors, ce qui était aussi extraordinaire, c'est que dans leur entourage, eh bien, il y avait de grandes signatures, que ce soit des peintres, des littéraires. Il y a eu Degas, il y avait eu des grands auteurs. Donc, je dirais que il y a trois personnages dans votre livre. Il y a Montmartre, et puis ce deux personnages, moi, qui m'ont fasciné, je les connaissais de nom, plus, je l'avoue, effectivement, Henri Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon. Alors, il faut préciser que Suzanne Valadon, c'est lui qui l'a nommée Suzanne.
Oui, c'est extraordinaire. Alors, on est presque sûr à 100%, hein, alors que certains disent, il y a une petite querelle chez les grands historiens de l'art, parce qu'on a trouvé quand même des toiles, disons, ils se connaissaient certainement avant d'avoir eu cette rencontre charnelle, très très incandescente, même si elle était, vous avez raison, elle était intermittente, mais quand même passionnelle. Et c'est vrai que la belle Suzanne, qui s'appelait pas Suzanne, mais qui s'appelait Marie-Clémentine,
oui.
Valadon, c'était le nom de sa mère, Madeleine, puisque forcément elle n'avait pas de père.
Oui.
Ça sera d'ailleurs son cas à elle, c'est extraordinaire pour l'anecdote. Du trio, elle n'a jamais très bien su qui était le père, Suzanne Valadon, le grand peintre.
Oui, le grand peintre, oui.
Et donc, du coup, elle s'est retrouvée fille-mère. Elle a voulu être écuyère. Elle a fait une chute. Elle était un petit peu trapéziste. Bon, et malgré tout, jamais elle a abdiqué. C'est une femme d'un courage, d'une énergie extraordinaire. Et elle couchait. Elle a été modèle. Au lieu d'être prostituée, elle a été modèle. Et là, elle choisissait bien, parce qu'elle a quand même été le modèle
de
Renoir.
Oui, de Renoir. Oui, tout à fait.
De Puvis de Chavannes, de Henner. Et... pas très souvent, mais oui, presque très souvent, elle couchait avec eux. Mmh. Et curieusement, elle ne couchait pas avec eux, je dirais, de façon sordide. Elle ne se faisait pas payer. Et eux, ils avaient une espèce de rapport, je dirais pas paternel, parce que ça devait être quelque chose, sans être grossier au lit, la belle Suzanne. Et du coup, pour se moquer un petit peu de Belle, Henri Toulouse-Lautrec l'a presque baptisée, disons, Suzanne. Parce qu'il y a un tableau célèbre, il y a beaucoup de tableaux qui ont été faits sur Suzanne avec les vieillards.
Oui.
Et ça vient, c'est un épisode de la Bible, où dans la Bible, il y a une femme qui est épiée, très jeune, qui est sans doute très belle, et qui est épiée par des petits vieux, on dirait des petits voyeurs finalement maintenant. Et donc pour se moquer, et là il y a un petit peu peut-être d'amour, de jalousie, quelque chose de... parce que je crois que Lautrec aimait plus... Valadon a aimé Lautrec, me semble-t-il. Mais il semble aussi que lui, pour se, non pas se venger, mais un petit peu, il avait une ironie mordante. Hein. C'était peut-être un peintre, mais il aurait été un grand écrivain, hein, un dialoguiste de cinéma prodigieux. Et donc, il lui a dit, oui, tu es comme la Suzanne de la Bible.
De la Bible.
Tu couches avec des vieux, donc tu t'appelleras Suzanne. Mais Degas, lui, l'appelait Maria.
Maria,
la,
oui.
La terrible Maria. Vous voyez déjà la terrible Maria. Donc, c'est une femme qui en imposait aux hommes. Et oui. Pas simplement parce qu'elle couchait. On sentait qu'elle avait une force d'âme, une force de caractère.
Moi, j'ai trouvé que c'était une femme extrêmement moderne pour l'époque déjà. Parce qu'il fallait qu'elles en montrent, il fallait qu'elles se mettent sur le devant de la scène parce que c'était pas évident. C'était quand même aussi, on était encore dans une société très machiste, très sexiste. Il a fallu qu'elles s'imposent. Il a fallu qu'elles s'imposent dans ce monde. Et moi, je me suis dit, cette force de caractère, parce qu'elle venait de nulle part par rapport à Toulouse-Lautrec, elle s'est imposée dans ce monde d'hommes. Elle a imposé son caractère, elle a imposé sa façon son devoir, et finalement en allant vers eux, en acceptant de poser pour eux, de coucher avec eux, mais comme vous disiez, pas de manière vulgaire, finalement c'est elle qui a imposé ses choix et son rythme.
Et ce qui est prodigieux, c'est qu'elle a appris, elle n'a pas été à l'école.
Non.
L'école des beaux-arts était interdite aux femmes.
C'était une autodidacte.
Il a fallu attendre la fin du 19e siècle.
Une autodidacte, hein. Oui.
Elle n'a pas été non plus dans des ateliers. Fallait qu'elle bouffe, fallait qu'elle gagne sa vie. Hein. Elle a fait plein de petits boulots. Donc, alors que tous les hommes, eux, y compris tous les autres, qu'on lui a donné les meilleurs professeurs, il allait. Vous parliez de l'époque des gens qu'il rencontrait. Il y a une coïncidence extraordinaire. Dans la période probable, hein, on n'a pas le début de leur premier amour et de leur dernier, avec précision, ils n'ont pas envoyé de faire-part dans les deux cas, mais on est à peu près sûr que c'est, disons, entre 1886, même s'ils se connaissaient sans doute avant, ils s'étaient croisés, et 1888, même s'ils se sont vus après, on ne sait même pas s'ils ont remis le couvert, avec eux tout est possible, mais ce qui est prodigieux, c'est que c'est la période à peu près où Van Gogh était à Paris.
Oui.
Et Vincent Van Gogh a été dans le même atelier que Henri Toulouse-Lautrec.
C'est un
atelier à Montmartre, l'atelier Cormon. Et c'est extraordinaire de voir, on dit c'est un peintre maudit, c'est le suicidé du siècle, c'est un grand perdant de l'histoire de l'art à l'époque, même si maintenant ce sont des génies considérés partout.
Tout à fait.
Et ben, ce qui est merveilleux, c'est que Lautrec a tout de suite repéré le talent de notre ami Van Gogh, et Suzanne Valadon aussi. Et par exemple, ils ont une ou deux fois chez eux, ou à chez Lautrec, ils montraient les tableaux de Van Gogh, et ça c'est Suzanne Valadon qui le raconte en disant « Oh les vaches !» en parlant d'ailleurs des peintres et des copains qui venaient voir, qui étaient un peu picassiettes chez Toulouse-Lautrec, et qui ne regardaient pas. C'est une vraie scène de cinéma extraordinaire, ça, qu'elle a racontée, où on a Van Gogh qui a mis, grâce à la gentillesse de Lautrec et de Valadon, ses toiles contre le mur pour que les gens le voient. Et les gens qui passent en rigolant, en courtisant les femmes. Et effectivement, il y a quelque chose de pathétique, puisque vous savez que Van Gogh, on dit qu'il a vendu, je crois, une seule toile de son vivant.
De son vivant, et oui.
On dit même, c'est pas prouvé qu'il l'a vendu pour un litre de vin.
Oui.
Alors que Lautrec a été quand même reconnu.
Mais Valadon aussi a été reconnu de son vivant aussi.
Oui, il a été reconnu de son vivant, mais beaucoup plus comme affichiste. Bon, je ne parle pas de l'affiche du Moulin Rouge, qui est déjà à l'époque a été mondialement célèbre, qui a concouru d'ailleurs au succès.
C'est quasiment la plus connue. Ouais. C'est quasiment la plus connue. Oui.
Alors que Valadon, ça a été plus long, mais elle a vécu plus longtemps, mais elle-même s'est imposée. Et finalement, elle aussi a été reconnue.
Mm-hmm.
Alors que Toulouse-Lautrec, il ne faut pas oublier que certaines de ses toiles ont été refusées par les grands musées nationaux. Mm-hmm. D'où d'ailleurs l'extraordinaire création du musée d'Albi.
Tout à fait, oui.
C'est sa mère qui a donné à Joyant, Maurice Joyant, qui était l'ami. D'ailleurs, il a écrit, c'est un des rares, il y a 3-4 personnes qui ont écrit sur Toulouse-Lautrec à l'époque. Hein. Beaucoup moins d'ailleurs sur Valadon. Mais malgré tout, on a quand même des témoignages absolument extraordinaires. Et moi, ce qui m'avait plu chez ces deux êtres, c'est que, vous savez, on dit souvent qu'il y a certains produits chimiques, séparément, ils sont complètement inoffensifs. Mais dès que vous en mélangez deux...
C'est explosif.
Ça devient dangereux, explosif, comme vous dites, vous voyez. Et ça a été pareil pour certaines personnes, notamment pour tous les deux. Et puis moi, ce qui m'a passionné... bien avant même d'écrire le livre, mais j'y pensais depuis des jours, pas dire depuis quand, depuis des années, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, et ça me fait plaisir, c'est qu'il y a un troisième personnage.
Oui.
essentiel pour moi, et c'est pas forcément parce que j'y ai vécu 50 ans de ma vie, c'est Montmartre.
C'est Montmartre.
C'est pas un décor. Non. C'est pas un décor
c'est
de
un
cinéma
personnage,
pour le,
c'est un personnage
pour,
les, à part entière.
Pour nos amis américains.
Oui, c'est un personnage à part entière. Oui. Alors justement, je voulais savoir, enfin comprendre, comment se fait-il qu'à cette époque-là, à ce moment-là, tous ces artistes se retrouvent à Montmartre, parce que Montmartre, moi j'ai envie de dire que c'est un vivier de talent, de passion, de peinture, d'explosion, d'art. Comment est-ce que l'on explique cela ?
Vous avez raison. Dans l'histoire de l'art, à part peut-être Florence ou Venise,
oui, oui,
en certaines périodes,
tout à fait, oui,
il n'y a jamais eu, sur un si petit lieu, une telle concentration de grands créateurs, pour ne pas dire de génies.
De génies, oui.
Et ça, c'était à Montmartre.
Hein. Oui, oui. Oui, parce que
c'était pas très grand. Hein.
Parce que regardez, tout Lautrec, au début,
il y a eu des raisons, je dirais, très très simples et assez amusantes. Quand Montmartre, même si ça a cessé d'être un village autonome, il y avait quand même encore l'octroi au départ.
Mm-hmm.
Hein. C'est-à-dire que le vin était moins cher, les restaurants étaient moins chers qu'à Paris.
Mm-hmm.
Hein. Donc il y a eu aussi un peu ça. Et puis, il y a eu, ce qui est assez prodigieux à Montmartre, c'est un espèce de mélange à la fois de classe, on a retrouvé aussi bien des bourgeois, pas forcément qui habitaient, mais qui venaient en goguette, pour s'encanailler, que des gens plus jeunes.
Mm-hmm.
On a retrouvé toutes les générations, toutes les classes sociales, et il y avait la liberté. Et comme c'était une époque quand même très corsetée, pas uniquement pour les femmes, très hypocrite, je disais qu'il y a trois personnages dans mon livre, il y en a un quatrième aussi, là j'ai voulu faire un petit peu, à la fin, œuvre d'historien, c'est quand même l'époque.
L'époque,
c'est une
tout,
époque
à
prodigieuse,
tout à fait.
Mais qui en même temps est d'une injustice sociale terrible,
oui,
et notamment pour les femmes. Parce que regardez, on parle de Suzanne Valadon, mais moi j'ai fait des recherches pour en retrouver, on en retrouve au moins 20-30 autres qui existaient. Mais à la limite, à part Suzanne Valadon, tu as Berthe Morisot, tu as Marie Cassatt, qui sont d'ailleurs, c'est une coïncidence, les trois, les protégés de Degas.
De Degas, oui, oui.
Mais il n'y avait pas les femmes, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Je vous dis, c'était la maman ou la putain.
Tout ça.
Elle n'était pas...
Et la femme au foyer.
Exactement.
Qui dépendait de l'homme.
C'est en allemand.
Qui dépendait
de
l'homme.
C'est pas germaniste, mais il y a ce qu'on appelle les trois cas. Vous savez, c'est à la fois, je crois, pardon pour ceux qui écoutent et qui parlent bien, je suis angliciste, mais pas l'allemand. C'est le Kinder, c'est-à-dire les enfants, Kirk, je crois que c'est l'église, et Kitchen, l'église. Et,
La cuisine.
La cuisine. C'est-à-dire que les femmes, elles étaient bonnes à ça, vous voyez.
Tout à fait.
Ou elles étaient sacralisées, idéalisées, et c'est pour ça que...
Alors justement, je me disais aussi, en lisant votre livre, est-ce que ces femmes-là, comme Suzanne Valadon, n'ont pas aider justement à l'expansion intellectuelle de la femme et à son expansion pratique et personnelle. Je pense qu'elles ont contribué à cette liberté.
Ah, oui.
C'était un petit peu comme des suffragettes américaines au début du XXe.
D'ailleurs, vous savez, c'est à cette époque, vous lâchez le mot suffragette, c'est exactement à cette époque, mais à quelques années près, même si le mot féminisme, suffragette, tout ça, c'est plutôt le début du XXe siècle. Mais
tout à fait, début du XXe.
Et au moment où mourait Lautrec.
Bien
et
sûr.
C'est précisément à cette période que naît, c'est le paradoxe, alors que jamais la femme a été autant oppressée, la grande historienne Perrault dit que, par exemple, la femme au XVIIIe siècle était plus libre sous l'Ancien Régime que la femme de la Troisième République en tant que femme.
Tout à fait.
Et ce qui est extraordinaire de Suzanne Valadon, c'est que moi, on pourrait presque dire que c'était une grande féministe.
Oui.
Mais ce n'était pas une féministe au sens conscience politique. Elle, c'était beaucoup plus, je dirais, égoïste, beaucoup plus individuelle. Elle s'en est sortie, elle n'a jamais été découragée, elle a observé, elle a appris en observant, ça aussi c'est prodigieux. On disait tout à l'heure qu'elle n'a pas été étudiée dans les ateliers, mais si. Quand elle était belle, elle regardait comment Renoir peignait, elle regardait comment il mélangeait ses peintures, elle regardait la forme d'un Degas, elle regardait ce que Puvis de Chavannes, qui est plus académique, mais qui avait quand même une grande maîtrise, faisait au niveau du dessin. Donc, elle a appris comme ça.
Mais je crois qu'elle a commencé à écrire sur des ardoises, enfin à dessiner sur des ardoises à la craie.
À la craie ou au charbon.
C'est incroyable, alors, c'est incroyable.
Pour la petite histoire de l'art, bon, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais il y a un autre précédent illustrissime qui a fait ça, c'est carrément Michel-Ange.
Michel-Ange, oui.
Qui lui était, qui dans la cuisine, je sais pas, ou familiale, comme il était tout petit, et ben, il peignait avec des bouts de craie, des bouts de charbon sur le mur. Mm-hmm. Et elle a commencé comme ça. On dit même des fois sur le trottoir, vous voyez, comme on, oui, oui. Comme on voit maintenant les gens qui veulent demander un euro, deux
oui,
euros.
Et qui dessinent sur les trottoirs, tout à fait, oui.
Certains, du talent, oui, d'ailleurs. Oui, oui, elle a commencé comme ça. Mm-hmm. Et elle a dessiné, je dirais, en cachette. Mm-hmm. En cachette. Parce que pour elle, elle n'était pas... D'ailleurs, il y a une chose très positive aussi. Lautrec est un des rares. Alors, on ne sait pas s'il l'a encouragé, parce qu'il l'a découvert certainement par hasard qu'elle peignait. Hein, mm-hmm. Parce qu'elle a été son modèle. Bon, ils ont, comme on l'a dit, couché souvent ensemble, et ils vivaient un petit peu avec eux, entre eux. Mais il ne savait pas que c'était vraiment une femme. Et aussi bien Renoir que Puvis de Chavannes, ils lui ont dit « Ah bon, vous aussi ? Mais c'est qui votre professeur ?» Donc, c'est-à-dire, ils étaient à la fois plein de gentillesse, de délicatesse même pour l'époque vis-à-vis d'elle. Ce n'était pas simplement une modèle qu'on troussait. Mm. Parce qu'à l'époque, vous savez, c'est un peu... Moi, j'ai écrit sur Marilyn Monroe. Il y a des choses qui n'ont pas changé. Il y a une phrase de Marilyn Monroe, quand on lui disait « Mais vous, quand même, vous avez beaucoup couché avec les producteurs. » Elle disait « It's part of the job. Bah, » ça fait partie du boulot. Et pour les modèles... Alors, c'était peut-être pas tout le temps, mais les modèles, bon, bah, tu couchais avec le maître qui te peignait, hein, tu te rhabillais pas tout de suite. Hein. Mmh. Alors qu'elle, elle voulait être une femme indépendante. Et ça, comme vous le disiez, à l'époque, c'était très, très, très rare. C'est l'époque où il y a les premières femmes avocates, les premières femmes bachelières.
Médecins, les femmes médecins.
C'est maintenant, c'est 1900. Mmh.
Mais les premières chirurgiennes aussi. Les premières chirurgiennes.
Bien sûr, bien sûr. C'est l'époque à la fois d'oppression de la femme, qui est à la fois religieuse, politique, bourgeoise,
sociale,
et en même temps, c'est
sociale.
Où les femmes commencent. C'est extraordinaire, extraordinaire aussi bien au niveau de. Même dans les syndicats étaient très machos, très machistes.
Hein. Tout à fait.
Mais c'est la première fois où les femmes s'affirment en tant que femmes. Et pour les contemporains, ça devait être insensé, je veux dire. C'est pour ça qu'au-delà de sa peinture, qui est d'ailleurs, la peinture de Suzanne Valadon, sans dire non, on l'a congratulée parce qu'on disait qu'elle, Degas lui a dit « Vous peignez comme nous, vous peignez comme les hommes. » C'est-à-dire qu'une femme, elle devait faire ou de la couture, ou alors si elle peignait, elle faisait du pastel.
Ou alors,
qu'on fait d'ailleurs Marie Cazat et puis Suzanne et Berthe Morisot, qui n'ont d'ailleurs pas fait que ça, hein, qui sont un cran au-dessus. Mais c'est ce qu'on appelait les maternités. Vous savez. On peignait uniquement une femme avec son petit bébé. Bon, c'est pas comme les Madones avec le petit Jésus de la Renaissance, mais c'était un peu la version moderne de ça.
Tout à fait.
Alors là, on tolérait. Mais c'est tout. On disait, elle s'amuse le dimanche, elle fait un petit
On minimisait un petit peu les choses. En tout cas, c'est une belle histoire que vous nous racontez, Lautrec Valadon, cette histoire au travers de ces deux personnages, c'est l'histoire de Montmartre. C'est vraiment un livre passionnant. J'enjoins tout le monde de le lire. Alors, comme je vous sens passionné par cela, est-ce que vous avez d'autres projets en ce sens, Yonick Flo?
Ben là, on dit qu'on revient toujours à son enfance. Là, c'était mon enfance, Montmartre. Mon prochain livre, ça sera indirectement, enfin pas directement, sur la Bretagne, mais avec Madame de Sévigné.
Madame
de Sévigné, qui habitait bien sûr la place des Vosges, et après le Marais, l'hôtel Carnavalet, qui d'ailleurs va rouvrir heureusement dans quelques mois.
Dans quelques mois,
après des années de
travaux,
de fermeture
et de travaux.
Et Madame de Sévigné avait un château en Bretagne, pas très loin de Rennes, près de Vitré, et elle a assisté en direct. Alors nous, on est journalistes, je dirais comme un journaliste, comme un reporter, c'est une des rares d'ailleurs, à ce qu'on appelle la révolte des bonnets rouges, qui est moins connue. On connaît les gilets jaunes, les gilets rouges, mais les bonnets rouges, qui a été beaucoup plus qu'une jacquerie, une véritable révolte populaire sous Louis XIV, à cause de Colbert, qui avait, comme par hasard, bis repetita, là l'histoire se répète, augmenter les impôts, mais ça a été beaucoup plus qu'une jacquerie ou une révolte fiscale. Certains historiens disent même que c'est presque prémonitoire de la Révolution française, vous voyez, à ce point-là.
Et ben vous
c'est elle qui, dans ses lettres, elle a écrit une vingtaine de lettres quand même, donc c'est beaucoup, où elle évoque
les bonnets rouges.
Bien sûr, elle est une marquise, hein, c'est une châtelaine, c'est une aristocrate, elle fait partie des VIP et de l'élite, donc elle a forcément un regard qui peut nous paraître très dur ou indifférent, mais qui est assez intéressant parce qu'elle, elle était vraiment au cœur, disons, de cette Bretagne qui était en insurrection. Donc, faire à la fois les personnages et aussi, disons, tout ce décor historique assez extraordinaire, quand on, que je retrouve, parce que moi j'avais écrit un autre livre sur Cyrano de Bergerac, plutôt Cyrano de Paris.
De Paris, aux éditions de la Biguine.
Puisque vous savez que Cyrano, il n'a jamais vécu à Bergerac, on peut même penser qu'il n'y a jamais foutu les pieds.
En tout cas, vous nous raconterez la belle histoire de Madame de Sévigné avec cette histoire de bonnet rouge. On vous accueillera de nouveau avec plaisir. En tout cas,
avec
pour
plaisir,
le moment...
Avec un plaisir partagé. Merci.
Alors, je rappelle le titre de votre livre, Lautrec Valandon, l'histoire de Montmartre au travers de ces deux personnages, avec le personnage de Montmartre à part entière, et puis aussi, eh bien, avec en satellite, les Renoirs, Degas et autres grands artistes qui ont fait le Montmartre d'hier, et puis aussi d'aujourd'hui avec sa réputation. Yannick Flo, ça a été un vrai plaisir de... On aurait pu comme ça en parler encore pendant des heures. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Et puis je vous dis à une prochaine fois avec Madame de Sévigné. Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.